J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un philosophe à qui on ne la fait pas. Pas le genre à gober sans sourciller les histoires officielles, à répéter comme tant d'autres avant lui que l'Odyssée d'Ulysse raconterait l'histoire d'un héros à qui manque sa patrie, son foyer, sa femme et son fils. Ulysse, un héros, lui, il verrait plutôt un anti-héros et même, accrochez-vous, un lunatique, un trickster au double visage, tantôt mal luné, sans qu'on comprenne pourquoi, tantôt bien luné pour des raisons tout aussi obscures. Ulysse, un héros, lui, il verrait plutôt, accrochez-vous encore une fois, en se référant aux différentes façons de comprendre son prénom, un fâché, pour ne pas dire un fâcheux, un ulcéré, un détraqué, et pour finir, une sorte de bouffon sacré, revenant chez lui un couteau à la main, dans ce qui ressemble soudain à un grand festival solsticien. Vous l'avez compris, c'est un changement de regard sur Ulysse, et plus généralement sur l'Odyssée d'Homère, que nous invite cet étonnant philosophe. Plus proche dans sa lecture d'Héraclite l'Obscur que de Platon, mais nous sommes comme ça, sous le soleil de Platon, ouverts à d'autres interprétations. Ce philosophe nous invite à ouvrir les yeux. Regardons le voyage d'Ulysse. Ne voyons-nous donc pas qu'il évoque la course d'un astre ? Ne nous invite-t-il pas alors à déchiffrer le ciel, bien plutôt qu'à éclairer un quelconque mal du pays ici-bas ? Ne faut-il pas alors placer le récit d'Homère, comme par exemple l'épopée de Gilgamesh, sous le signe de l'astrologie ? L'Odyssée d'Homère, et même Homère lui-même, et si on les voyait autrement ? Et s'il fallait aller voir un peu derrière les apparences ? Et si le récit d'Homère, c'est plus de 15 000 vers chantés et rendus sensibles par une tradition orale, avait un autre sens que celui qu'on nous dit ? Et si Homère, d'ailleurs, avait été une femme ? Le fait de s'ouvrir à cette hypothèse féminine ne peut-il pas nous aider à voir Homère, et Ulysse aussi, autrement ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir ce philosophe différent. Il a osé s'aventurer sous le soleil de Platon pour nous raconter autrement l'histoire d'Ulysse, l'histoire d'un anti-héros qui voulait justement réconcilier la lune et le soleil. Marc Alizard nous a rejoint ce matin et en sa compagnie, en partant de son dernier livre astrologique, Essai sur l'Odyssée, sorti au PUF comme d'autres de ses précédents essais, notamment les excellents Chiens ou Pop Théologie, nous allons nous demander qui était vraiment Ulysse, qui était vraiment Homère et surtout, de quel voyage nous parle-t-on vraiment ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Marc Alizard.
Bonjour.
Merci d'avoir fait ce détour par le studio de France Inter.
Merci à vous.
Et d'ailleurs, c'est un détour que vous nous proposez aussi.
Oui.
Détour par une histoire non officielle de Homère, de l'Odyssée et de Ulysse. Alors, avant d'entrer dans ce livre que j'ai entre les mains, donc qui s'appelle Astrologique, sorti aux très belles éditions du PUF, dirigé par Laurent de Sutter, et sous-titré « Essai sur l'Odyssée », je dis juste un mot de votre parcours. Vous avez écrit des livres très différents, tantôt sur l'informatique, sur le coup d'État climatique, sur les chiens, sur le crypto-communisme. Et donc, vous avez une façon assez atypique d'aborder les sujets. On est toujours surpris. Et plus récemment aussi, vous avez sorti un livre, Dark Tintin, où vous racontiez combien on sentait dans Tintin... combien Hergé avait été victime d'inceste. Et là, eh bien aujourd'hui, dans ce livre-là, il s'agit quand même de changer de regard sur l'Odyssée. Et vous racontez, on va commencer par ça, que ça fait presque 25 ans que vous avez ce livre en tête.
Oui, l'Odyssée, c'est un petit peu comme Tintin. Je crois que pour beaucoup de gens, c'est un souvenir d'enfance. D'abord, c'est quelque chose qui nous accompagne presque toute la vie. Et dans mon cas, c'est quelque chose qui est revenu ensuite dans ma vie quand j'ai commencé mes études de philosophie universitaire. Pour une raison plus savante que le plaisir qu'on peut tirer de la mythologie grecque de manière générale, qui était cette chose qu'on trouve chez les romantiques allemands, chez Hölderlin, qu'on peut trouver chez Nietzsche aussi, qu'il y a quelque chose dans l'origine, l'origine pré-platonicienne de la culture, pas sous le soleil de Platon, mais...
Héraclite, Parménide, plutôt Héraclite d'ailleurs.
Pré-socratique, ouais. Comme on les appelle. Il y aurait quelque chose qui serait à découvrir et qui serait à retrouver même. L'idée étant que, au fond, depuis Platon, parfois on dit depuis Descartes, mais eux disent même depuis Platon, la civilisation aurait perdu le lien avec quelque chose d'essentiel.
Avec l'être.
Avec l'être, recouvert sous les essences, sous les idées, sous la philosophie, enfin d'une certaine manière.
C'est aussi la thèse de Heidegger.
C'est aussi la thèse de Heidegger. Qui a eu. Moi, j'ai étudié Heidegger avant qu'on sache ce qu'il avait fait, qui il était dans toutes ses dimensions.
Ouais, et notamment pour que tout le monde comprenne qu'il était sympathisant nazi, même après la Seconde Guerre mondiale.
Oui. Ce sont des auteurs qui sont très, très fascinants, même dans leur toxicité, j'ai envie de dire, qui peuvent créer des effets comme ça. J'en parle un petit peu d'ailleurs dans la préface. Enfin, dès qu'on veut se frotter à l'origine, on se frotte aussi à quelque chose d'un petit peu dangereux, parce qu'on est dans une posture qui consiste à dire qu'on va retourner la modernité, en quelque sorte, qu'on va sortir de la modernité. Et donc voilà, je suis revenu à Homère d'abord dans ce cadre-là.
Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez que ce que vous nous dites comme étant la vérité de l'Odyssée, ça s'est justement très vite perdu, et que déjà 300 ans après, c'est-à-dire à l'âge de Platon, il n'y a plus cette sagesse-là. Alors, de quelle sagesse s'agit-il ? Donc, je vais le dévoiler. Pour vous, ce qu'il y a au cœur de l'Odyssée, ce n'est pas le cœur de ce que le récit raconte, mais c'est au fond un savoir sur le temps. D'où le titre, astrologique. Le véritable objet de l'Odyssée, ce serait de nous donner à voir le temps que l'on ne sait pas encore mesurer, parce que le cadran solaire n'a pas été encore inventé. Il faudrait donc décrypter les choses autrement et voir le voyage d'Ulysse comme la course d'un astre. Est-ce que je résume bien ?
Oui, il y a beaucoup de dimensions à ce texte, ou à ce récit, à cette oralité, comme vous l'avez dit. On est en moins 800 quand même. Hein.
Ouais.
On est effectivement 300 ans avant Platon. La littérature n'existe pas comme telle. Enfin, on n'écrit pas de romans.
Voilà.
On n'écrit pas de romans.
C'est une tradition orale.
Homère, c'est pas Tolstoï. La psychologie, les drames psychologiques, c'est pas son sujet. Mémoriser 15 000 vers, c'est un effort absolument colossal, en fait,
ouais, c'est
quand
ça.
On y pense. Ça nécessite un entraînement spécifique. Les aèdes, ce sont des gens très particuliers, entre le chaman et le sumo, si vous voulez. C'est des gens qu'on entraîne depuis qu'ils sont tout petits, quoi.
C'est ça. Donc je précise, pour que tout le monde comprenne, c'est que c'était des aèdes qui racontaient oralement cette histoire, qui se succédaient pour dire et chanter aussi ces 15 000 vers.
C'est ça. Et donc, en 300 ans, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. Donc, 300 ans, une époque où l'écriture... Alors, c'est aussi une période où l'écriture s'est perdue. Elle a existé, elle s'est perdue, elle est retrouvée.
Ouais.
On appelle ça les âges obscurs, c'est pas pour rien. Il en reste assez peu de choses archéologiquement. On n'est pas forcément s'étonner que Platon ne comprenne pas directement ce qu'il découvre, ce qu'il redécouvre à ce moment-là. Et qui peut être très, très loin de lui et de ce que lui est en train de créer.
Et surtout de ce qu'il veut.
Et de ce qu'il veut. Moi, j'ai tendance à dire que Platon, c'est un peu la reine Victoria. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut reconstituer un empire, ce qu'il appelle la République, mais enfin, en gros, c'est un projet qui va poser les bases du panhellénisme, qui va fonder la Grèce. C'est peut-être quelque chose qu'il faut dire aussi. La Grèce n'existe pas à l'époque d'Homère, elle n'existe plus. Si jamais elle a existé, enfin, il y a des grandes villes qui ont été détruites, la ville de Mycène en particulier, en 1200, il y a un grand tremblement de terre, il y a une famine, beaucoup de choses se décompose, se défond à ce moment-là. Et la Grèce telle qu'on la connaît, quand on parle des Grecs, c'est un concept assez tardif, post-platonicien, qui arrive après ce grand moment de reprise en main morale, vertueuse, politique,
rationnelle, langagière.
Voilà, où on refonde quelque chose. Et où donc on perd peut-être autre chose.
Une sagesse qui est celle que vous nous invitez à voir. Je vous lis, Marc Alizard, dans votre livre astrologique « Essai sur l'Odyssée » paru au PUF. On n'imagine pas, donc là vous racontez cette manière de compter et de chanter tous ces vers, on n'imagine pas qu'autant d'énergie fut investie dans la conception et la transmission d'une épopée de 15 000 vers, apprise par cœur par des aèdes et qui n'étaient pas de simples troubadours, mais des personnages presque sacerdotaux, sans une raison fondamentale.
Oui, oui.
Alors quelle raison ?
Ben, y a une des raisons... probablement, c'est la transmission d'un savoir. La transmission d'un savoir qui se fait...
Et chiffré, du coup, codé.
Oui, alors il est en partie codé parce que, comme tous les savoirs, il donne du pouvoir. Il donne du pouvoir à une classe, à une caste. Et le savoir fondamental de ces époques-là, c'est un déchiffrement des astres.
Voilà, c'est ça.
C'est un déchiffrement de ce qui se passe au ciel, qui est la scène en fait fondamentale de ces époques-là. C'est là que ça se passe.
Et d'ailleurs, vous dites au début du livre, trois des plus grands récits de la littérature occidentale sont placés sous le signe de l'astrologie, l'épopée de Gilgamesh, l'Ancien Testament et les Évangiles. Vous y allez quand même fort. Et après, vous expliquez qu'au fond, l'Odyssée d'Homère aussi.
Oui, alors, pourquoi est-ce que ces trois récits-là sont placés sous le signe astrologique ? Bon, Gilgamesh, parce que, très clairement, et là, c'est assez facile à voir, plus facile à voir que dans l'Odyssée, c'est l'histoire de la constellation d'Orion, qui est... Il faut savoir, alors, peut-être que je dis qu'il y a une constellation qui s'appelle Orion et qui ressemble à un guerrier. C'est stupéfiant, en fait, même que ce soit possible.
Ouais, c'est vrai.
On lève les yeux au ciel, on découvre... la première chose qu'on découvre, c'est évidemment... Les étoiles sont des amas qui sont potentiellement chaotiques, etc. Mais il y en a un qui est vraiment entouré de vide et qui ressemble à un guerrier. C'est fascinant. Il a fasciné absolument toutes les civilisations de la Chine, Amérique latine, le bassin mésopotamien. Et donc Gilgamesh, c'est Orion. Et il a, alors on ne sait pas s'il a un arc ou un bouclier, mais enfin il fait face à d'autres amas d'étoiles. Et comme c'est un guerrier, l'amas d'étoiles, la constellation qui est en face de lui, on va penser que c'est le taureau. Et on va d'autant mieux le penser que l'étoile majeure du taureau, c'est Aldébaran, qui est rouge comme du sang.
Comme le logo de France Inter.
et donc le combat d'Orion et du taureau Aldébaran, c'est le combat fondamental de ce qui se passe sur la scène du ciel. Et c'est ce que raconte Gilgamesh dans le combat avec Umbaba, etc.
Et donc on arrive à Homère, puisque au fond... Vous êtes exaspéré par une lecture un peu conservatrice, un peu terrienne, où ça raconterait surtout quelqu'un à qui la terre manque, sa terre, son village, sa famille, son foyer. Et vous nous dites, en gros, je suis obligé de simplifier un peu, qu'il s'agit surtout de déchiffrer le ciel plutôt que d'apprendre à vivre la nostalgie de l'ici-bas.
Voilà. Et alors, c'est pas les mêmes constellations qui intéressent Homère, et les constellations l'intéressent aussi, mais c'est clairement un autre phénomène qui était vraiment fondamental aussi à la vie ancienne, notamment à la vie calendaire, hein, vous parliez du temps pour commencer l'émission, qui était les cycles lunaires. Et la nécessité de comprendre, de se caler sur ces cycles lunaires. La grande problématique de l'Antiquité, il faut réussir à se remettre en tête ce genre de choses, c'est pas forcément évident, c'est que les cycles lunaires et solaires sont dissociés. Il manque à peu près 12 jours chaque année au cycle lunaire, au cycle solaire pour se recaler. Et
ça crée quoi comme problème ?
Ça pose des problèmes parce que le calendrier, il est lunaire. Pourquoi le calendrier est lunaire ? Parce que la Lune a des phases. Et donc c'est assez facile de se dire on va planter les choux au troisième croissant de la lune montante. Voilà, c'est simple, hein. C'est un calendrier évident, agricole. Le calendrier solaire, il est à la fois plus évident et plus complexe à mettre en place. Il est marqué par des grands événements qui sont les solstices et les équinoxes. Mais les solstices et les équinoxes, ce sont des phénomènes qui sont difficiles à marquer. C'est pour ça qu'il existe des mégalithes, des lieux comme Stonehenge, pour qu'on se souvienne, pour qu'on puisse noter, savoir à quel moment ces grands basculements de l'été et de l'hiver ont lieu, du combat entre l'obscurité et la lumière, qui est aussi un des gros éléments mythologiques qu'on connaît. Et donc, comment est-ce qu'on recale le temps humain, donc le temps lunaire, avec ce temps solaire ? C'est quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes. Et ils ont découvert en fait, qu'il y avait plusieurs manières de le faire. Donc, une manière, c'était effectivement d'ajouter 12 jours au calendrier lunaire à la fin de chaque année, et ça donnait lieu à des festivals qui existent encore aujourd'hui. Les 12 jours de Noël, c'est une vieille survivance de cette chose-là. Mais c'était pas très pratique parce que les phases de la Lune ne se recalent pas pour autant. Elles se décalent de 12 jours. Pour que les phases, c'est un petit peu technique, mais pour que les phases de la Lune se recalent exactement avec le cycle solaire, il faut attendre beaucoup plus. Il faut ajouter 12 jours pendant de nombreuses années.
Ah oui.
Et la thèse, alors c'est pas la mienne, c'est celle que j'emprunte à une dame qui s'appelle Edna Lee,
ouais,
qui était une professeure d'anglais au Texas dans les années 60. Une helléniste amateur géniale qui lit l'Odyssée et qui découvre que le chiffre 19 revient de manière assez récurrente. Argos meurt dans la 20e année.
Le chien d'Ulysse,
au moment où il le reconnaît, donc ça nous donne une temporalité. C'est-à-dire, Homer met plein d'éléments. Les lecteurs de l'Odyssée savent probablement, se souviennent qu'il y a plein de chiffres tout le temps.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ces chiffres, on ne sait pas très bien quoi en faire. C'est-à-dire que Ulysse dit « Ah, mon père a 50 arpents de vigne, 12 oliviers, etc. » Il y a 118 prétendants, etc. Bon. Et qu'est-ce que c'est que ces chiffres, en fait? Et le chiffre 19 qui revient très très régulièrement, Edna Lee a cette idée assez géniale de dire, mais en fait, ça correspond au cycle calendaire qui permet à la Lune et au Soleil de se recaler à la phase près, et ça devait donc, alors ça c'est moi qui ajoute ça, être une fête tout à fait particulière, puisque c'était un reset complet, c'était la grande année en fait. 19 ans, c'était une grande année qui se terminait et qui permettait d'en commencer une nouvelle.
Et du coup, on arrive à la figure d'Ulysse qui, pour vous, si on le décrypte ainsi, d'un point de vue donc astrologique, on va dire, il a cette mission de réaccorder le temps détraqué des astres et à nouveau d'unir les deux calendriers pour qu'on puisse bien vivre en fait. Et c'est là que, donc c'est très sourcé, c'est très érudit, vous allez chercher plein d'hellénistes un peu atypiques, mais en même temps, on retrouve aussi quelques éléments d'une interprétation classique du mythe qui est de retrouver de l'ordre, de retrouver un accord finalement.
Bien sûr.
Donc c'est pas si dissonant.
Non, non, mais bien sûr, le mythe, Lévi-Strauss le raconte très bien, enfin, c'est le vise à accorder des opposés, des contraires, à réparer des choses dans le monde qui semblent dissonantes. Homère, d'ailleurs, on pense qu'une des étymologies possibles d'Homère, c'est l'accordeur.
Voilà.
Ce qui n'est pas complètement absurde quand on pense aussi qu'il était aveugle et que beaucoup d'accordeurs de piano sont aveugles.
Voilà, on reconnaît là votre ton. Ça saute comme ça d'une idée à l'autre, et c'est vrai que c'est des petits raccourcis saisissants. On se dit, mais oui, c'est peut-être ça que veut nous dire Homère, c'est peut-être ça que symbolise Ulysse au fond, cette manière dont quelque chose est désaccordé et dont on pourrait avoir besoin de le réaccorder. C'était Björk, Human Behavior.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Pénélope a été prévenue du retour de son mari. Bouleversée par la nouvelle, elle garde ses distances face à cet époux qu'elle ne reconnaît plus. Elle entra. Elle avait franchi le seuil de pierre. Dans la lueur du feu contre l'autre muraille, juste en face d'Ulysse, elle vint prendre un siège. Assis, les yeux baissés, sous la haute colonne, il attendait le mot que sa vaillante épouse, en le voyant, dirait. Mais elle se taisait, de surprise accablée. En face de sa femme, Ulysse prit le fauteuil et lui tint ce discours. Malheureuse, jamais en une faible femme, les dieux, les habitants des manoirs de l'Olympe, n'ont mis un cœur plus sec. J'irai dormir seule, car en place de cœur, ma femme n'a que faire.
Nous sommes toujours avec Marc Alizard sur France Inter, sous le soleil de Platon. Et Marc, nous parlons de votre dernier livre astrologique, Essai sur l'Odyssée, réinterprétation de la figure d'Ulysse. Alors évidemment, on est un peu loin de ce que lit Guillaume Gallienne. Alors il le lit très bien, cette voix est merveilleuse. Mais au fond, c'est ce dont tu nous parles est assez superficiel, si ce que vous dites est vrai.
Oui, la rencontre entre Pénélope et Ulysse, c'est une rencontre cosmique. Ah. C'est un mariage cosmique. C'est la rencontre entre la Lune et le Soleil. Ulysse, c'est donc cette Lune qui met 19 ans à rentrer chez elle.
Le lunatique, vous l'appelez pour ça ?
Le lunatique, ouais. Pour plein de raisons. Il a des épithètes, vous savez, dans l'Odyssée, le polytrope. Il est d'ailleurs appelé au deuxième vers. Polytrope, ça veut dire celui qui a plusieurs tours, c'est l'homme aux mille tours.
Celui qui est rusé, donc.
Oui, celui qui est rusé. Mais c'est celui aussi qui présente plusieurs faces. Comme la Lune présente plusieurs phases, et juste après, il est dit qui t'enterra, l'homme aux mille ruses, qui t'enterra, qui erra longtemps.
Qui a t'enterré, voilà.
Voilà. Mmh. Ce mot, errer, c'est un mot plancton en grec,
ouais.
Qui a donné deux mots en français. Le premier, c'est plancton, parce que le plancton erre en quelque sorte à la surface de l'eau, donc ça on le comprend assez bien. Et un autre mot, plus inattendu, qui est planète. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le ciel et vous regardez les étoiles, si vous ne connaissez pas la différence entre les planètes et les étoiles, il n'y a aucune raison de plus la connaître avant l'invention du télescope, vous découvrez que des étoiles, certaines étoiles sont secouées, ça veut dire secouées plancton,
ouais.
Sont secouées d'un mouvement un peu étrange. Il se trouve que les planètes ont des mouvements qu'on appelle des mouvements rétrogrades. Elles avancent et puis elles font des boucles sur elles-mêmes et, ou des analèmes comme la Lune.
Ouais.
Si vous la regardez pendant 29 jours au même endroit, vous allez voir qu'elle va faire un gamma, enfin une forme en 8. Et donc c'est littéralement décrit comme la planète qui montre plusieurs faces.
Voilà. Et d'ailleurs, vous appelez ça aussi un trickster. Enfin là, voilà. C'est quand même un double face.
C'est assez connu que c'est un trickster. Mais les tricksters sont de manière générale associés à la Lune. Et la Lune a cette réputation de détraquer les gens, comme la planète Mercure d'ailleurs. Par ailleurs, Polytrope, d'ailleurs, il faut le rappeler, c'est l'épithète d'Hermès. Hein. Jean-Michel Ropart, un helléniste assez génial aussi, a écrit un livre qui s'appelle « Ulysse dans le monde d'Hermès » qui montre les liens entre Hermès et Ulysse et la Lune à cet égard.
À vrai dire, ce serait presque le même. Finalement, Hermès, c'est le voyageur, et Ulysse reprendrait la figure d'Hermès sa façon.
Jean-Michel Ropart pense que c'est une historisation d'Hermès.
Voilà, c'est ça.
Je suis pas forcément tout à fait de cet avis. Je pense que c'est aussi, il est aussi beaucoup en lien avec Héphaïstos,
oui.
Qui est un dieu beaucoup plus, encore plus bizarre, si j'ose dire.
Oui, bien sûr.
Par plein de traits physiques, et qui est surtout un dieu qui fait rire. Et je pense que, enfin, moi, ce qui m'intéresse dans cette lecture, c'est ce qu'elle permet ensuite de découvrir sur la partie comique de l'Odyssée. Effectivement, ce qui est ça qui m'éloignerait le plus de la lecture de Gallienne et des lectures de manière générale qu'on fait de l'Odyssée qui sont toujours un peu pathétiques, au bon sens du terme, enfin au sens théâtral.
Le voyage, je reviens, je n'arrive pas à revenir, voilà, je retrouve mon sol.
Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est plutôt une comédie parce que la Lune est comique, est un objet comique, parce qu'elle détraque, parce qu'elle rend fou, qu'on hurle à la Lune, enfin voilà.
Oui, parce que finalement, les différentes figures qu'on découvre d'Ulysse sous votre plume, Marc Alizard, donc c'est d'abord le lunatique, on vient d'en parler, l'homme qui a tenterré, celui qui est du coup parfois bien luné. et parfois mal luné, et on comprend mieux pourquoi. Quand il est bien luné, tout lui sourit, quand il est mal luné, il a que des adversités.
Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose que vous trouvez dans ce texte génial d'Edna Lee, qui n'existe qu'en anglais malheureusement, que selon les phases de la Lune, selon qu'elles sont montantes ou descendantes, le personnage d'Ulysse, c'est toutes ses aventures durant en général 29 jours et demi, et donc tout un cycle lunaire, et elle commence. Mais c'est vrai aussi pour les cycles solsticiens, c'est-à-dire que toute l'Odyssée est marquée par des cycles solsticiens, les 19 ans qu'il parcourt, quand le soleil renaît, les Achéens renaissent, enfin, c'était quelque chose de... C'est des cycles naturels, en fait, qui étaient qui aussi réglaient la vie de ces peuples premiers, qu'on peut appeler quasiment, pour mieux les comprendre, enfin, pour mieux comprendre la distance qui nous sépare d'eux. Je veux juste terminer sur la rencontre de la Lune du Soleil, parce qu'il ne faut pas oublier Pénélope.
Pénélope, oui, on y revient.
Quand je dis que Pénélope, c'est le Soleil, elle l'attend, comme dans la chanson de Charles Trenet, il se trouve que Pénélope, c'est un nom merveilleux parce qu'il semblerait qu'on puisse le rattacher au Martin pêcheur. On appelait les Pénélopes les Martins pêcheurs, et les Martins pêcheurs plongent à la verticale dans l'eau. Et comme le soleil quand il se couche dans l'océan. Et donc on est sur une cérémonie de ce type-là, d'autant que ça se passe le jour du solstice d'hiver, autour du 24 décembre. Et ça se passe pendant la fête d'Apollon. Apollon qui est le l'harmoniseur des mois.
Le dieu de la mesure, de l'équilibre, de la mesure, de
l'équilibre, et donc de l'équilibre des temps. Et donc c'est la grande fête des 19 ans, où les temps, la lune, le soleil, se réaccordent sous le signe d'Apollon.
Mais à la fin quand même, votre Ulysse, il est plutôt dionysiaque. À la fin, on dirait un bouffon sacré.
Mais pourquoi ? Parce que les fêtes solsticiales sont traditionnellement, comme les fêtes de Valpurgis, la nuit de Valpurgis, les fêtes solsticiales sont des fêtes, ou les Saturnales, où la folie gagne les gens. Pourquoi elle gagne ? Parce qu'en fait, on est sur ces périodes de 12 jours qui ont été étudiées par des anthropologues comme Fraser ou par Carlo Ginzburg, pas des sorcières. Ce sont des moments où on chasse les démons. On chasse les jours perdus, on chasse les jours intercalaires. Et c'est aussi un moment interstitiel dans le calendrier. C'est-à-dire, quel est le statut de ces jours qui ne sont pas dans le calendrier lunaire, qu'on ajoute exprès pour faire un raccord, en fait, un raccord artificiel. On appelle ça un embolisme en grec, c'est-à-dire un forçage.
Pour réaccorder le monde.
Pour réaccorder le monde.
Le monde.
Il y a 12 jours qui sont 12 jours qui flottent. Et dans les Saturnales, on élit un roi des fous pour mettre en scène, pour théâtraliser ce moment où on chasse les démons, on se déguise, on a des clochettes, on s'insulte, les rôles s'inversent, les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes, on amène
gender fluide, le festival solsticien.
On amène des ânes dans les églises, enfin, c'est quelque chose qui s'est transmis jusqu'à Halloween aujourd'hui. C'est une des plus vieilles fêtes de l'humanité. La fête des 12 jours, la fête du réaccordage solsticien, c'est une des plus vieilles fêtes de l'humanité. Et c'est une fête, un carnaval, c'est avant carnaval, c'est 40 jours avant carnaval, mais c'est une sorte de pré-carnaval. Et donc il faut prendre vraiment ça en compte pour comprendre effectivement pourquoi Ulysse peut être un personnage dionysiaque, comme vous venez de le dire.
Bien sûr, mais attention, je vous interromps, parce que ce qui est passionnant dans votre cas, c'est que vous avez un chemin très atypique, vous allez chercher des hellénistes un peu obscurs dans certains cas, mais en même temps, finalement, vous ne dites pas quelque chose de très différent de ce que dit par exemple Jean-Pierre Vernant quand il explique que toute la mythologie raconte cette déchirure entre le désaccordement et l'accordement et cette volonté de sortir de la violence pour retrouver la paix et cette volonté de remettre de l'ordre dans le désordre. Quelque part, vous n'êtes pas si atypique que ça au fond dans votre lecture. Au début, on se dit quand même il est sacrément barré. Et puis après, on se dit non, finalement, des hellénistes classiques vous rejoignent. Enfin, vous les rejoignez plutôt.
Bien sûr. Non, ce qui est atypique, c'est de penser le contraire, c'est de penser qu'on est face à un drame psychologique, comme dans le film The Return qui vient de sortir. Enfin,
ça, ce serait un anachronisme pur.
C'est un pur anachronisme de lire l'Odyssée comme un texte contemporain.
Et bien d'ailleurs, on va écouter la bande-annonce de ce film d'Uberto Pasolini qui est sorti il y a quelques mois, The Return.
Our king Odysseus, the smartest of all the heroes. He led us for 10 years in the Trojan War. Then outpoured our soldiers. Odysseus led us to victory.
People love stories.
Je vous vois rire, jaune, consterné.
Oui,
contresens total pour vous.
Oui, bah, c'est un très beau film, hein, esthétiquement, plastiquement, il y a rien à dire. Il y a des très beaux paysages, ça se passe manifestement en Grèce, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'Odyssée, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est-à-dire qu'il s'est exonéré de toutes sortes de la suite, des éléments du récit tels qu'ils sont proposés par Homère pour en inventer un autre. Et puis surtout, il nous propose donc un drame psychologique qui est l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre, avec un syndrome de stress post-traumatique, qui ne veut pas rencontrer sa femme et son fils parce qu'il a peur de
pas supporter,
quoi. De pas avoir réussi à ramener ses hommes et de passer pour un lâche, un traître, un nul, et puis d'avoir une relation extra-conjugale pendant son voyage de 19
plusieurs,
ans.
Plusieurs,
ce qui n'est pas du tout dans l'Odyssée. Bref. Et il est joué par un personnage, donc Ralph Fiennes, qui est qui est très beau, mais qui ne correspond en rien à ce que Ulysse est. Ulysse, c'est pas Rambo chez les Grecs. Enfin, c'est pas un bodybuildé qui fait 1m80. J'ai regardé sur Google, Ralph Fiennes fait 1m80. D'abord, il est petit.
Ulysse, bien sûr.
C'est le plus petit des Achéens quasiment. Agamemnon se moque de lui par
d'ailleurs, vous
permanence.
Dites souvent, on l'appelle le meilleur des Achéens, c'est peut-être le pire. Vous
alors
dites.
Achille, c'est le meilleur des Achéens, et par symétrie, en quelque sorte, Ulysse est le pire. Alors, c'est Tersite le pire, mais Ulysse et Tersite se bagarrent comme si, en fait, ils avaient une sorte de solidarité gémellaire. Mais donc, Ulysse est petit, il a aussi un très gros thorax. C'est-à-dire que c'est une sorte d'infirmité.
Il est un peu difforme, en fait.
Alors, pourquoi il a un gros thorax ? Parce qu'en fait, il est très intelligent et que les Grecs pensaient que l'intelligence était dans le thorax.
Il est très rusé, quoi.
Donc, donc il a une grosse tête, en fait. Très grosse tête, il est petit, donc c'est quand même pas génial. Il est lâche. C'est-à-dire que c'est un archer. Il essaie de se faire réformer d'abord. Il veut pas aller à la guerre de Troie. Enfin, ça, c'est Aristote qui raconte ça. Donc, c'est pas dans Homère, mais il essaie de se faire réformer. Il y arrive pas en se faisant passer pour fou. Finalement, il y va. Il est archer. Donc, archer, ça veut dire qu'il se bat de loin. Télémaque aussi, Télémachos, se battre de loin. Donc ça, c'est un trait de famille. C'est le fils d'un brigand, le petit-fils d'un brigand, Autolycos, le loup en personne. Et puis, il a un autre trait spécifiquement comique, c'est qu'il préfère manger à se battre. Et donc Agamemnon lui dit, toi, tu es toujours dernier au combat, mais premier au festin. Et donc ça évoque forcément une figure classique, traditionnelle de la culture populaire, qui est la figure de Polichinelle.
Bien sûr, une sorte de bouffon, quoi.
Il a un gros ventre. et il aime se battre. Il est rusé, effectivement. Ouais. Il est stratège. C'est pas du tout cette espèce de héros que, très très vite, mais y compris dans la statuaire grecque, dans la poterie grecque, à partir effectivement des platoniciens et des post-platoniciens, on va retrouver systématiquement partout pour reconstruire une sorte de mythe, d'une Grèce qui est en train de se chercher des héros et des pères fondateurs. Mais donc cette figure comme ça, donc pas dionysiaque, mais vraiment, j'ai parlé d'Héphaïstos parce que Héphaïstos, c'est le dieu qui fait rire les dieux. Quand on parle de rire homérique, ça se réfère toujours à Héphaïstos. Héphaïstos, soit il fait rire les dieux par sa faute, parce qu'il est maladroit, soit il les fait rire parce qu'il invente des pièges qui permettent, par exemple, de prendre Aphrodite et Arès dans un filet d'or nu pendant qu'ils ont des rapports sexuels devant tous les dieux de l'Olympe. Et donc, tout le monde s'esclave d'un rire homérique. Et donc, Ulysse, c'est forcément quelqu'un qui doit provoquer ce rire.
Alors juste un truc, quand on a écouté la bande-annonce de The Return, de Umberto Pasolini, vous avez bien démasqué ce qui est selon vous un contresens anachronique et psychologisant, mais il se trouve que est annoncé un nouveau Ulysse par Christopher Nolan.
Oui.
Or, donc on l'a pas encore vu, il se trouve que le sujet de Christopher Nolan, c'est souvent le temps, et la complexité du temps, et les retours dans le temps. Peut-être que le film de Christopher Nolan va être alizartien.
J'en espérais aussi beaucoup, jusqu'à ce que je découvre qu'il s'était choisi Matt Damon pour jouer Ulysse, donc rebelote. Il aurait dû choisir Danny DeVito, et ça aurait été bien plus, fidèle à son propos.
Vous auriez dû être le consultant sur le film de Christopher Nolan.
La moula, le bar. La moula, le bar. Je parle pas les bars, je suis bien dans les bars de ma down. Soit tu descends, soit tu montes tout en haut de la pyramide. Tout en haut de la pyramide, quoi.
soit tu descends, soit tu montes, tout en haut de la pyramide. 2h15, j'démarre en trompe, dans le veau c'est un terre ennemi. Je sais ça fait mal quand tu tombes, mais bon c'est la vie l'ami. Là tu sais pas sur qui tu tombes, un conseil don't play with me. J'suis à l'aise, j'suis à l'aise, j'suis à l'aise même en terre ennemi. M'emballer, m'emballer, j'vais pas rire quand je verrai le prix. J'suis à l'est, j'suis à l'est, j'en suis déjà à 2 terres et demie. Et j'continue, j'continue, yeah. La moula, le barrage, j'parle pas les bas, j'suis bien que dans les bas. De ma daronne, plus compter les gars, j'peux compter les gars. Là j'me prends pour tape, quand je slalom sur le track. Ils sont prêts à miser sur le crack, celui qui a les yeux bien plissés sous la cape, qu'a la casquette vissée sur le crâne. J'suis au bled dans un cruiser, toi t'es un prouveur de deux. Car là j'prends même pas la peine, j'hésite entre un boussem ou de la douceur. Tu une raquée qui se prend pas la tête, dans son regard c'est pas des balles à blanc. Mais mes émotions j'en parle après. J'suis crué au studio, faut que j'rentre dans la peine. Pour la suite avec Chick, il faut que j'prépare un plan bien carré, un plan bien ficelé. J'aime pas les fils de, j'aime pas les guises. Ça se demande des toffes, ça se demande c'est qui type. J'ai constamment l'impression d'être listé, mais bon j'suis là parce que j'le voulais. Ce serait très culotté de m'en plaindre. Maintenant j'peux montrer l'article au vendeur et lui demander mes démons. Plein. Jusqu'ici, j'ai vesqué les obstacles. J'ai mis tout mon cœur dans mes tracks. J'ai pas mis jaloux dans mes potes. Et j'rajoute du parmigiano dans mes pattes. Dans ma tête, c'est Space Mountain. Malugueux à tel point que j'en casse mon tel. Malugueux, la mala, c'est pas mon thème. Malugueux, moi j'préfère tes clats, mon terme. Ma bugueux, faut que j'te parle de celle à qui j'ai fait couler tant de larmes de sel. J'en ai dégradé des tonnes de 16 que j'ai écoulé comme des grammes de cesse. Un peu fancy, un peu bougie. Elle connaît même pas mon place de scène. Je viens de souffler 22 bougies, je suis dans la cuisine, j'ai pas de recette. Soit tu descends, soit tu montes, tout en haut de la pyramide. 2h15, démarre en trompe, dans le veau c'est un terre ennemi. Je sais ça fait mal quand tu tombes, mais bon c'est la vie l'ami. Là tu sais pas sur qui tu tombes, un conseil don't play with me. J'suis à l'aise, j'suis à l'aise, j'suis à l'aise même en terre ennemi. M'emballer, m'emballer, j'vais pas rire quand je verrai le prix. J'suis à l'aise, j'suis à l'aise, j'en suis déjà à 2 terres et demie. Et j'continue, j'continue, yeah.
C'était le rappeur Yanis Barra.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec le philosophe Marc Alizart. Et cher Marc, nous parlons de votre dernier livre astrologique, sous-titré Essai sur l'Odyssée, paru aux éditions du PUF. Un livre assez génial où on voit autrement le message de l'Odyssée du point de vue astral, du point de vue de l'élucidation du mystère du temps. On apprend qu'Ulysse est plutôt un détraqué, un bouffon sacré, un trickster, mais quelqu'un qui aussi a une mission importante de réaligner le calendrier lunaire et le calendrier solaire pour qu'on puisse mieux vivre. Et finalement, on est surpris parce que votre livre semblait au début très, très barré pour faire résonner la chanson de Yannick qui s'appelle Barra. Mais finalement, on retrouve aussi une sagesse classique, une lecture assez classique de la mythologie, où il s'agit quand même de retrouver de l'ordre au cœur du désordre et d'aller au fond du chaos pour en faire sortir une harmonie nouvelle. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le chien d'Ulysse, qui s'appelle Argos, parce que, encore une allusion à la Lune, puisque peut-être Argos, ça veut dire l'éclatant comme la Lune, et je voudrais juste faire un petit détour par un de vos vieux livres que j'avais adoré, qui s'appelle Chien, qui était très émouvant, et vous racontiez, je crois, que le chien nous aide peut-être à passer de la nature à la culture ou inversement.
Oui, c'est vrai.
C'est loin, en fait.
Non, oui, c'était une question que je m'étais posée à l'époque dans ce livre, qui était la question de l'hominisation. On sait qu'il y a des anthropologues, des paléo-anthropologues, qui réfléchissent très sérieusement à cette question et qui pensent que le chien a pu jouer un rôle, la domestication du loup, en tout cas, a pu jouer un rôle dans l'hominisation.
Ouais.
Et qu'il y a une sorte de comment on peut dire, de couple symbiotique qui se forme entre ces deux espèces, et que le rôle que le loup va jouer, le loup domestiqué va le jouer auprès des communautés humaines, ça va être de former une sorte de membrane, en quelque sorte, entre la violence, entre la sauvagerie de la nature et la possibilité d'une civilisation.
Ouais.
Donc il n'y a pas de continuum, en fait. Il y a une rupture, on pose une rupture, cette membrane un peu filtrante, où le loup-chien joue le rôle, en quoi prend sur lui des fonctions cérébrales comme l'éveil, l'alerte, qui vont du coup libérer, et ça on le sait maintenant, on a pu le prouver, libérer des zones cérébrales dans le crâne d'Homo sapiens. Et il se trouve, peut-être une pure coïncidence, mais c'est pas inintéressant, que les premières peintures pariétales, vers moins 35 000 ans, coïncident à peu près aussi avec la domestication du loup.
Voilà.
Comme si quelque chose avait pu être rendu possible par le chien. Ouais.
Tout à fait. Et puis il y a autre chose dans votre travail sur les chiens que j'avais adoré, mais c'est pas sans rapport avec le livre dont on parle aujourd'hui, parce qu'il est question de joie. De joie dans la fête,
oui,
de joie dans le festival, de joie dans le festival solsticien. Et vous avez des très belles pages sur cette joie du chien. Pourquoi est-il si joyeux? Il n'y a pas beaucoup d'animaux joyeux comme ça.
Alors, oui, quand j'ai écrit le livre, j'étais peut-être moins sensible au fait que la joie en fait, des animaux est plus répandue que je ne le pensais. C'est peut-être Instagram qui nous permet maintenant de regarder toutes ces vidéos incroyables. On voit des éléphants hilares, des singes qui rient. Le rire, qui était le propre de l'homme, donc jusqu'à
il y a bien longtemps.
Il y a bien longtemps.
Comme tous les propres de l'homme.
Voilà, c'est ça, en vocation à disparaître progressivement. La joie du chien évidemment est un phénomène complètement fascinant. Alors certains disent que c'est de la néoténie, hein, mot un peu scientifique pour dire que ce sont des animaux qui ne sont jamais devenus vraiment adultes, mais comme je le dis, le fait que la joie existe dans le règne animal de manière générale est quelque chose qui pourrait presque se rapprocher du conatus spinoziste.
Voilà, c'est
une joie d'être.
Voilà, c'est ça qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. D'ailleurs, je me souviens d'un commentaire de Spinoza qui dit « Le cheval, quand il galope, il persévère dans la joie de son être ». Je reviens à votre livre, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Du coup, vous posez aussi la question, mais finalement, pourquoi à un moment, on a perdu ce message? Et vous dites, et c'est assez stupéfiant comme explication, en fait, à un moment, on n'en a plus besoin, parce que la vérité, c'était d'expliquer de manière codée et orale, et raconter cette vérité du temps, parce qu'il fallait vivre avec. Et puis après, il y a eu une invention. Le cadran solaire, et c'est ce qui aurait en quelque sorte démonétisé l'Odyssée d'Homère, finalement. Parce qu'on n'a plus besoin d'en parler comme ça, vu que le cadran solaire nous éclaire.
Oui, oui, on rentre dans ce que les philosophes appelleraient la métrique. On passe des intensités aux grandeurs extensives. On change d'époque en changeant de temps, en changeant la manière de calculer le temps. C'est vrai que c'est une invention égyptienne qui apparaît en Grèce à peu près vers l'époque de Platon et qui va contribuer très fortement au panhellénisme d'ailleurs, parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, chaque ville grecque a un peu son calendrier. On n'arrive pas à s'y refaire. Les fêtes des uns ne sont pas les fêtes des autres. Et je crois qu'il y a un dramaturge, Euripide, qui se moque de cette histoire-là.
Mais quelque part, on sort de la magie pour rentrer dans la métrique rationnelle.
Et donc, voilà. Alors ça, vous parliez d'hellénistes classiques comme Jean-Pierre Vernant, Vidal Naquet, Marcel Détienne, qui ont beaucoup écrit sur le fait que c'est une époque de transition entre ce qu'ils appellent la parole magico-religieuse.
Voilà.
Et la parole dialogue, qui va être la parole fondatrice de la raison,
le logos,
de la raison grecque, du miracle grec, en quelque sorte.
Mais en même temps, on est sous le seuil de Platon, et chez Platon, il y a le début du logos, mais il y a aussi du mythe, évidemment.
Bien
sûr. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magique.
Platon, comme les pythagoriciens, croit encore que l'univers est un rhomboèdre, que certaines étoiles sont des octogones. Enfin, c'est très curieux chez Platon, ce mélange entre... chez lui, c'est quand même une sorte de cosmos bien rangé.
Voilà.
La particularité du cosmos homérique, pré-platonicien, c'est que c'est un cosmos détraqué. On a cette idée du cosmos comme d'une horloge, en fait, qui rejoue un peu toujours les mouvements circulaires des étoiles, des planètes, etc. Ce qui est frappant quand on s'intéresse à l'archéo-astronomie, c'est que leur vision du ciel, elle est complètement différente. Car ce qu'ils voient, c'est des changements en permanence. C'est la précession des équinoxes, c'est-à-dire que l'équinoxe de printemps se lève dans une constellation différente tous les 2000 ans. C'est la Lune et le Soleil qui sont décalés d'un jour et demi, ce qui est quand même ridicule. qu'est-ce qui, pourquoi est-ce que ce truc-là n'est pas bien rangé? Et ça explique beaucoup aussi le fait que les mythes ne soient pas bien rangés. Enfin, l'Olympe n'est pas bien rangé. Les dieux font n'importe quoi, ils rendent leurs femmes cocues, ils se battent, après ils se battent plus. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, en fait? Si on contraste ça avec le théâtre de l'immobilité beckettien, qui est vraiment le théâtre monothéiste, en fait, on a perdu beaucoup de ce désordre cosmique qui s'était transféré dans la religion.
Je vous lis, Marc Alizart, notamment à la fin, parce qu'on va comprendre qu'il y a un envol un peu particulier. Vous allez nous expliquer que peut-être quelque chose s'est perdu avec cette parole magico-poétique, avec ce rapport au temps-là, et que peut-être que le cadran solaire a été inventé, mais peut-être que cette invention nous a fait perdre quelque chose d'autre, peut-être l'être, sa vérité, détraqué. Alors je vous lis, Marc Alizart, et vous allez comprendre où va le livre finalement. Aujourd'hui, nous savons que le détraquement de notre monde ne doit pas qu'un peu, paradoxalement, à ce temps universel, absolu, rationnel, qui en a objectifié les parties et phallicisé le discours. Une autre manière de mesurer le temps serait-elle donc en mesure de nous en sortir ? L'avenir le dira peut-être, s'il nous en reste suffisamment. Donc là, on comprend où vous vouliez en venir. C'est que peut-être on a perdu quelque chose et qu'il faudrait peut-être le retrouver si on ne veut pas disparaître.
C'est la grande idée de Bergson, c'est la grande idée de Deleuze, c'est aussi la grande idée de Nietzsche dont on parlait pour commencer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait revenir à l'origine? Pourquoi il faudrait revenir à ces textes-là? Pour retrouver quoi, en somme? Et est-ce que ce qu'on pourrait y retrouver peut revenir dans notre monde qui en aurait besoin? On arrive clairement aux limites, aujourd'hui, du monde tel qu'il s'est conçu sous la lumière de la Grèce, du cartésien.
De la raison conquérante,
du mécanisme, de la raison qui nous rend maître et possesseur de la nature, etc. Donc, on sent bien qu'il va falloir qu'on arrive à trouver une porte de sortie. Est-ce qu'elle est vers le passé, vers l'avenir, ou est-ce qu'elle est vers un passé qui nous ouvre l'avenir? C'est un petit peu le sujet qui peut nous amener à nous intéresser à relire en permanence les Grecs.
On y va. Merci beaucoup, Marc Alizart, de nous avoir invités à cette relecture passionnante, et pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, qui fut aussi celui d'Homère, dont vous dites que c'était peut-être une femme, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je voudrais essayer de résumer la philosophie de la vie qui est la vôtre. Alors oui, vous venez de le dire, un peu deleuzienne, nietzschéenne aussi, peut-être l'éternel retour, il faut aller chercher en revenant toujours, mais peut-être en trouvant autre chose à chaque fois qu'on revient. Et puis comme je l'ai dit, quelque chose de très intéressant chez vous, qui est une espèce de danse comme ça, entre quelque chose d'assez désopilant, barré. Quand vous dites par exemple que les accordeurs de piano sont souvent aveugles et que c'est logique, vu quand on lit Homère, c'est un peu bizarre. Et en même temps, quelque chose de classique en fait. C'est classique de vouloir ouvrir les yeux, c'est classique de vouloir changer de regard, et c'est classique de rappeler, notamment avec Jean-Pierre Vernant, qu'il s'agit bien de retrouver de l'ordre, de l'équilibre, de la joie de l'équilibre, au cœur même du déséquilibre. Merci beaucoup, Marc Alizart.
Merci, Charles.
Cette émission a été préparée par Joseph Ascal, Audrey Carme, Estelle Gap et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Elle a été réalisée excellemment par Alicia Vullo, avec à la technique Florian Dittre.